L'esprit critique. Mediapart.
Préhistomania est le titre d'une exposition présentée par le Musée de l'Homme qui a ouvert à la mi-novembre dernier et qui est encore visible jusqu'au 20 mai prochain. Elle explore les origines de l'humanité à travers une matière particulière, les relevés d'art rupestre. Ces peintures sur toile ou papier ont reproduit, depuis la naissance de la science préhistorique, les œuvres peintes dans les grottes depuis les premières expéditions commencées au début du XXe siècle. L'exposition présente plus de 200 documents et objets, dont une soixantaine de relevés originaux. Alors, qu'est-ce que Magali Le Sauvage révèle tous ces relevés présentés dans une exposition qui offre un panorama mondial de l'art rupestre et pariétal?
Alors moi j'ai été assez étonnée parce que finalement on est au Musée de l'Homme qui est un musée scientifique qui fait partie du Muséum National d'Histoire Naturelle, donc qui est la même structure, donc qui est aussi un musée où il y a des conservateurs qui sont aussi des scientifiques, des anthropologues, des ethnologues, donc c'est quand même une particularité. Et là ce que j'ai trouvé c'est que c'était vraiment une exposition d'art, enfin ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'est que j'ai trouvé quand même qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'exposition pour situer déjà peut-être un peu le déroulé, c'est qu'on arrive dans l'exposition, vous avez des reproductions, enfin c'est relevé donc de ces peintures pariétales ou de ces reliefs pariétaux, grandeur nature, et qui sont d'une beauté vraiment extraordinaire. Enfin, c'est vraiment...
Et qui font plusieurs mètres de long.
Voilà, très impressionnant dans les dimensions.
Parce que c'est à l'échelle 1, donc du coup, c'est vraiment très grand. Et il y a une ou deux salles comme ça, et il y a vraiment un choc esthétique, quoi. C'est vraiment... Et il y a très peu, là, à ce moment-là, vous avez très peu d'explications. Même sur les cartels, moi, j'ai été frappée parfois pour la datation. C'est écrit « quelques millénaires ». Plusieurs millénaires, je crois, c'est écrit. Donc ça, bon, après, je suis pas préhistorienne, mais je trouve que c'est quand même un petit peu, je trouvais ça un peu léger. Après, il y a un peu plus de matière scientifique qui arrive, mais c'est quand même une exposition qui est très sur le choc artistique qu'on produit.
Oui, ça se veut vraiment d'abord une expérience sensible. Après, on entre dans des salles où c'est là beaucoup plus explicatif, mais au départ, il y a l'idée qu'on traverse une expérience sensible, comme si on entrait dans une grotte d'ailleurs, avec un éclairage assez sombre.
Oui, c'est ça. Exactement. Mais en même temps, je trouve que on a des explications après sur les différentes expéditions qui ont eu lieu. Donc Henri Breuil, Léo Frobenius, dans la première moitié du XXe siècle essentiellement. Donc on a des explications sur ça, sur leurs méthodes, sur leurs démarches, etc. Mais pas tellement sur les œuvres elles-mêmes, en fait, pas tellement sur les objets eux-mêmes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. Après, j'ai été vraiment stupéfaite de découvrir certaines images chamaniques, certaines les mains négatives, par exemple, qui sont extrêmement belles. Et voilà, je trouve c'est une exposition où la balance, si vous voulez, art-science, est un peu déséquilibrée au profit de l'art, pourquoi pas. Mais pour le Musée de l'Homme, en tout cas, je trouve ça assez étonnant. On serait au Centre Pompidou, par exemple, peut-être que ce serait une question qui se poserait moins. Là, je trouve que l'apport scientifique est un petit peu léger.
Margot Nguyen, un peu
et
sur cette même question.
Moi, j'ai eu un ressenti assez différent du tien, Magali. Je trouvais justement que même dans la présentation des immenses relevés, on avait quand même ce zonage géographique sur des cartes qui, pour moi, fait très Musée de l'Homme. Je trouve que la dernière salle qui montre tout le matériel de relevé, le contexte de relevé, bon, quand même, est assez scientifique. Et en fait, je pense que l'exposition, enfin, telle que je l'ai comprise, s'axait vraiment sur le statut de ces relevés, en fait. Est-ce que le relevé est un objet scientifique, une archive ou une œuvre? Et peut-être que cette tension, en fait, aurait mérité d'être plus dite, peut-être de manière plus explicite, et effectivement, et ça je te l'accorde, de manière à répartir dans l'exposition de manière plus équilibrée les choses, parce qu'on a aussi toute une salle sur la réception moderne et l'exposition de 1937 au MoMA.
Alors, je pense que ça, il faut en parler assez vite, même si on va reparler de celui qui l'organise, Léo Frobenius, qui est un des premiers principaux explorateurs de l'art préhistorique et qui organise une exposition avec 150 relevés d'œuvres rupestres d'Afrique et d'Europe au MoMA de New York. C'est aussi une exposition qui est voulue par Alfred Barr, qui est alors le directeur du MoMA, et en gros c'est un accrochage qui ne donne quasiment aucune information, alors là beaucoup moins que celle du Musée de l'Homme contextuel, dans le cadre vraiment d'un parti pris de montrer ça comme des œuvres en soi, c'est relevé, une exposition qui va tourner aux États-Unis, dont on nous dit qu'elle a influencé toute une partie de l'art américain, Jackson Pollock et d'autres. Là on est quand même dans un moment de rupture où on estime que non seulement l'art préhistorique est un art, mais que les relevés sont en soi des œuvres, Margot.
Ouais, très intéressant, et qui participe de cette conception, enfin, ou la question de l'aura ou de la reproduction, enfin voilà, c'est aussi contemporain de certaines réflexions en histoire de l'art, enfin Walter Benjamin sur la question de l'aura, enfin, et l'aura dans la modernité, la reproductibilité, je pense que ça s'inscrit dans ce mouvement de réflexion, et en ça, je trouve que Voilà, mais c'est une question qui aurait pu être amenée de manière, pour moi, un peu plus explicite dans l'exposition.
Oui, en effet, je crois que ce qui est intéressant, c'est la surinterprétation qu'on fait toujours des œuvres du passé, d'un passé si lointain en tout cas. C'est-à-dire que il y a aucun, évidemment, aucun document qui nous dit qui a fait ça, pourquoi, comment. Enfin, évidemment, il y a de la recherche, mais on est obligé d'interpréter, on est obligé de deviner en fait ce qu'étaient ces choses. Et il y a certains cartels qui sont d'ailleurs, par exemple, sur les mains négatives, il y a un cartel qui parle de l'intime, qui dit que c'est comme une carte de visite. Enfin, vous voyez, c'est assez beau d'ailleurs, ouais. Parce qu'on voit que là, les commissaires ont voulu lui un petit peu rendre la chose un peu poétique. Et effectivement, c'est extrêmement touchant. On a envie de poser soi-même sa main sur cette main qui elle-même est une reproduction d'une main qui, en fait, donc est sur une paroi ailleurs. Enfin, comme un espèce de jeu de, voilà, de toucher.
Ouais, bah, enfin, de communication avec vraiment la préhistoire, quoi, avec, nos origines.
Avec un être humain qui, voilà, avec lequel on a sans doute beaucoup plus de points communs que de différences, mais qui vivait il y a une dizaine de milliers d'années. Et donc, ce qui est intéressant et qui, effectivement, comme disait Margot, est peut-être pas assez. Mais là, peut-être que ce sera un regard plus artiste, c'est-à-dire parce qu'il faut savoir que les releveurs, qui étaient beaucoup des releveuses d'ailleurs, des femmes, ça l'exposition insiste pas mal là-dessus, donc ça c'est important, des femmes qui étaient des étudiantes en art, donc on imagine aussi qu'elles acceptaient de partir dans des conditions assez difficiles dans ces expéditions qui étaient dans des lieux un petit peu, enfin elles étaient obligées de monter sur des falaises, il faisait très chaud, enfin voilà, ça devait être assez compliqué.
Oui, il y a quelques photos assez impressionnantes.
Voilà, quelques photos assez impressionnantes, et donc voilà, on voit un petit peu le on imagine que ces femmes ou ces hommes étaient aussi artistes et que donc quelle est la part d'interprétation, par exemple dans les couleurs, parce qu'il y a des très beaux lavis comme ça, des aquarelles, des choses avec des superpositions de couleurs. Donc quelle est leur interprétation là-dedans, dans les coloris par exemple. Il y a forcément une interprétation quand vous copiez quelque chose. Et il faut savoir aussi d'ailleurs que certains procédés, comme notamment en Algérie où on a fait des relevés de fresques comme ça, ont beaucoup abîmé les fresques originales.
Oui, là je pense qu'il faut parler notamment de cette personne qui s'appelle André Lhôte, qui a travaillé en Algérie et qui tenait quasiment davantage à ses relevés qu'à l'original. Et donc, il avait fait une méthode de relevé de calque qui supposait de mouiller l'original, voire de surligner avec des couleurs, qui fait que ça abîmait l'original. Mmh. Et là, on voit quand même comment les techniques et le respect des œuvres
et
la mentalité ont évolué.
Mmh. Bah, on parlait d'appropriation tout à l'heure. Bon, bah, là, il y a un peu la même chose. Il y a un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont absolument interdites, évidemment, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de l'exposition, c'est qu'on fait des photos. Enfin, on a des instruments photographiques très précis. On prend des notes sur chaque micro centimètre carré de paroi. Enfin voilà, c'est pas du tout. On ne touche pas en fait aux choses. Là vraiment, ils arrivaient avec leur papier calque qui mouillait, puis reproduisaient dessus. Enfin, on a l'impression. Bon, c'est quand même un peu brutal. Et en même temps, effectivement, l'idée, c'était comme vous disiez, c'était qu'en fait, l'important, c'était de ramener ça en Europe et que ce qui reste là-bas, bon, finalement, de toute façon, on a fait l'empreinte. Donc, ce qui est important, c'est qu'on garde l'empreinte et puis l'original. Enfin, je caricature un peu, mais il y a quand même un peu cette idée-là. Parce qu'évidemment, ils étaient quand même.
Alors, tous ne faisaient pas des techniques aussi agressives. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant d'imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait des techniques aussi agressives pour des choses qui semblent aujourd'hui aussi précieuses. Enfin, Lascaux, on en est à la quatrième ou cinquième reproduction, parce qu'on sait à quel point aussi ces traces sont fragiles.
Mais on n'était pas du tout dans la même mentalité de préservation du patrimoine aussi. Enfin, voilà, on voit que les mentalités ont énormément changé de ce point de vue.
Margot, et notamment justement, alors sur peut-être qu'il faut finir aussi sur ce titre, Préhistomania, donc engouement pour la préhistoire. C'est quelque chose finalement d'assez récent, hein, ça date, on le voit là, du début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il a rend possible et comment elle se manifeste?
Alors déjà, moi, j'ai appris quelque chose qui m'a absolument scotché. C'est, dans l'expo, il parle donc de ce patrimoine sensible, qui rejoue ces questions de comment on préserve un patrimoine sensible en respectant sa sensibilité. Et c'est surtout le volume, car ils disent qu'il y a 45 millions de peintures et gravures rupestres et pariétales à travers le monde. Donc, c'est assez beau de se dire que voilà, ça concerne, que c'est aussi étendu en termes de nombre. Et pour revenir sur votre question, Joseph, oui, je pense que peut-être aussi, ce qui m'a gênée, c'était le manque de contextualisation sur la naissance de la discipline archéologique au 19e et 20e. Et j'ai vu que donc en 2014, le Goethe-Institut avait fait une exposition plus centrée sur la démarche de Léo Frobenius, qui est justement
qui est vraiment
cité,
un des pionniers, voilà, et qui est cité dans l'exposition, de ses relevés, qui fait partie des 3-4 pionniers, personnages montrés dans l'exposition.
Voilà. Et donc il y a eu une expo dédiée donc à cette figure même et à l'ambiguïté de sa pensée en fait, et qui dans cette expo de 2014, du coup, on montre bien que à la fois ces expéditions ethnographiques sont rendues possibles par l'appui des régimes nazis et fascistes déjà, premièrement, et deuxièmement, que ses premiers écrits, en fait, s'inscrivent vraiment dans une pensée raciste ou diffusionniste, et que voilà, l'archéologie est comme naissance, enfin comme discipline scientifique au 19e, voilà, s'inscrit dans une pensée raciste assez datée, bon, qu'il faut nuancer aussi puisqu'elle est reçue. Enfin, parce qu'il évolue dans sa pensée, hein, Frobenius, et parfois il est reçu aussi par Senghor et Césaire plus tard comme plutôt un point d'appui à la négritude et à une manifestation de l'art sur le continent africain. Donc c'est plus complexe que ça. Les nazis voudront fermer son institut à sa mort en 1938. Mais néanmoins, enfin, je trouve important aujourd'hui, dans un contexte muséal, de quand même voilà, dresser un contexte historiographique sur la discipline et montrer l'ambiguïté et la volatilité. Voilà, mais c'est bon, peut-être que Préhistomania...
Non, mais c'est vrai que cette dimension-là est pas vraiment présente, non. Alors que, bah voilà, par exemple, on avait parlé ici de l'exposition Débordée, l'anthropologie au Musée du Quai Branly, qui rappelait quand même que et l'anthropologie, mais aussi la préhistoire, s'ancre dans un moment, non seulement colonial, mais un moment où les différences raciales et biologisantes structurent en grande partie le monde savant. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, voilà. Et que ça, c'est pas tellement affiché dans l'exposition.
Oui, en effet, il y a le contexte colonial de ces expéditions qui n'est pas du tout rappelé. Et d'ailleurs, il y a une série de photos qui sont très, très belles, dont je n'ai pas réussi à trouver l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs, dans l'exposition. Mais il y a beaucoup de photographies, en fait, de ces expéditions. On voit bien les Blancs dans leurs camionnettes avec des personnes arabes ou noires autour qui poussent pour sortir du fleuve. Enfin, bon, il y a quand même un contexte colonial précis. Et qui n'est pas rappelé parce que donc Frobenius était allemand, donc il va en Éthiopie, voilà, il va aussi dans des lieux qui sont facilités par le fait qu'il soit allemand, donc des colonies. Les Français vont en Algérie. Enfin bon, il y a quand même ce contexte colonial qui est pas vraiment rappelé et qui forcément explique pourquoi certains sont allés ici et d'autres là, parce que selon les empires entre guillemets auxquels ils appartenaient. Et bon, ça évidemment c'est pas le sujet principal de l'exposition, mais je pense que ça aurait été pas mal de rappeler aussi ce contexte-là. La recherche, elle a lieu aussi. Elle est facilitée aussi par effectivement des idéologies, mais aussi par des moyens financiers et par une volonté de voilà couvrir la terre entière pour s'approprier aussi non seulement les richesses du pays, mais les connaissances aussi du pays et l'art de ces pays-là.
Et quand les cartels parlent d'épopée, c'est vrai que c'est un petit peu naïf, quoi. Non, mais il y a une vraie héroïcisation
de l'aventure,
un peu.
C'est-à-dire que je pense que l'exposition Préhistomania fait son travail de mettre en perspective la science préhistorienne et notamment ses évolutions. On parlait des techniques tout à l'heure, mais elle le fait pas vraiment d'un point de vue politique. Elle parle beaucoup des techniques, mais peut-être pas de l'évolution politique de cette science et
mythifié,
du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Et d'ailleurs, il y a, pour reparler de ces femmes qui faisaient les relevés, donc on les voit quand même en bras de chemise, elles bossaient, quoi. On sentait que vraiment c'était dur, leurs conditions de travail. Et vous avez quand même juste à côté du portrait de Frobenius en short, d'ailleurs. Bon, c'est assez drôle parce qu'il a une chemise autrichienne et un short.
Il fait chaud en Éthiopie.
Ouais, il a quand même sa veste. Mais bon, il y a en fait des dessins qu'il faisait de ces femmes, où en fait, on les voit à photo à côté. Et lui, il les représente comme des espèces de playmates des années 20 et 30, avec des yeux comme ça, charmeuses, enjôleuses. Donc, c'est dans un pur fantasme, en fait. Parce que quand on voit les photos d'elles à côté, je veux dire, elles sont en pantalon pour l'époque, ce qui n'était pas forcément courant. En chemise, elles sont à crapahutes sur les falaises. Enfin, c'était pas... Voilà,
ouais, elles sont en tenue de travail.
Elles sont... Voilà, c'est des travailleuses, quoi. Elles sont pas... Et donc, de le voir que, je sais pas, le soir, peut-être, il dessinait ces petits trucs, ces croquis là, de femmes érotisées, c'est... Bon, c'est intéressant qu'ils aient mis ça, je trouve, parce que...
Mais
c'est...
Oui, ils l'ont pas masqué non plus, mais c'est vrai que démarche n'est pas complètement aboutie, de ce point de vue-là.
C'est assez intéressant, le décalage, quoi.
Préhistomania, c'est visible pour petits et grands au Musée de l'Homme, situé place du Trocadéro à Paris jusqu'au 20 mai prochain. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Karen Beun.